Vous avez reçu un email. Ceci est un message de la Haute Autorité.
Please note, your access to the internet was used to commit.
Des faits constatés par procès verbal, qui peuvent constituer une infraction pénale.
This program is offered by the Studio 405.
Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Studio 405, l'école des facs. Une émission par Décalitos pour Décalitos, pour patienter en attendant le retour du Studio 404 à la rentrée de septembre. Avec moi, notre ingé son Sous X. Bonsoir Sous X.
Salut à tous.
Le vrai Curtis, notre troll bien-aimé.
Bonsoir, bonjour.
Et Flash Thompson, la voix grave de la raison.
Salut.
Et moi-même, Emric, pour vous servir. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de quatre sujets, entrecoupés de FAQ, avec une petite rubrique de fin, comme au premier épisode, avec le tweet like post qui vous a fait rire, pleurer ou rager. Et on commence tout de suite par la chronique de Flash Thompson, Snaptagram, Facebook Live, Jiffy, Facebook en mode mat podcast.
Chronique numéro 1.
Alors, le titre de ma chronique, c'est Facebook en mode mat podcast. Alors, pourquoi ce nom? Parce qu'il faut savoir que ce mat podcast a été connu sur YouTube pour avoir notamment plagié les vidéos du YouTuber américain Mortoki. Ça fait toute une histoire sur Internet. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de points communs entre Mark Zuckerberg et ce fameux mat podcast. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter au 4 février 2004. Le 4 février 2004, c'est bien sûr le lancement par Mark Zuckerberg de The Facebook, dans sa chambre d'étudiant à Harvard. C'est le premier réseau social à connaître un succès populaire aussi grand. La raison de ce succès? La simplicité d'utilisation de cette application, de ce logiciel, de ce service. On ajoute des amis, on regarde leurs photos et on commente leur statut. Rien de plus simple. 1 milliard de comptes créés plus tard, Facebook cherche à se créer un nouveau modèle et à trouver une nouvelle inspiration. Et ce, à coup de mise à jour. Au fur et à mesure de ces fameuses mises à jour de Facebook, le visage de ce service a complètement changé. Dans cette démarche, vers le top of the pop du marché des réseaux sociaux, Facebook tend de devenir caméléon et petit à petit implémente des fonctionnalités des autres concurrents du marché. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Facebook n'est plus une entreprise cool, une start-up qui débute depuis belle lurette. Et tout comme Microsoft, Apple et d'autres, elle prend le parti d'acheter l'innovation plutôt que de la créer. Et si elle ne peut pas l'acheter, elle la copie, mais toujours avec subtilité. Mais le 2 août, mes amis, le 2 août, nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans le monde de la copie carbone. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 2 août ?
Instagram, série.
Eh oui.
Ah oui.
Instagram.
Une story d'Instagram.
Instagram, le vampire Instagram possédé par Facebook, acheté pour 1 milliard de dollars par Mark Zuckerberg et sa clique. Propriété de Facebook, donc, a lancé une pique contre l'ennemi Snapchat, réseau social favori des ados, avec le lancement de ces fameuses stories Instagram. Alors, les Insta Stories, les Snaptagram, on cherche encore le mot qui conviendra le mieux à cette nouvelle interface. Elle prend la forme d'une nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui permet aux utilisateurs de créer des histoires, regroupant des photos et de courtes vidéos. Une fonctionnalité datant tout de même de 2013 chez Snapchat quand même. Pour l'innovation, on repassera. En plus, la copie est vraiment totale. Le même nom, les stories, même délai de 24 heures avant la disparition des photos et des vidéos, même option, comme ajouter des emojis ou dessiner sur les clichés. Facebook ne fait même plus semblant de vouloir innover. En fait, pourquoi Facebook s'attaque autant à Snapchat et copie aussi largement son fonctionnement ? Eh bien, parce que Facebook essaie d'acheter l'entreprise depuis sa création, en fait. Sauf que l'entreprise Snapchat refuse de se faire acheter par Facebook. Et depuis, l'entreprise de Mark Zuckerberg essaie de mettre des bâtons dans les roues de Snapchat. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Slingshot ?
Pas vraiment, non.
Ben voilà, comme personne. Slingshot, c'était une tentative un peu maladroite et complètement ridicule de Facebook de récupérer les utilisateurs de Snapchat. Mais tant mieux, ça n'a pas fonctionné. Mais Facebook ne s'arrête pas à Snapchat et essaie de concurrencer tous les autres réseaux sociaux du marché. Par exemple, j'ai fait des petites recherches en mode veille techno, veille high-tech, tu vois, de ce que Facebook a tenté de faire jusque-là. Et par exemple, si on prend le mode de la vidéo, on peut parler de YouTube par exemple, qui est le leader de la vidéo sur Internet.
Oui.
Eh bien, Facebook a annoncé au mois d'avril dernier un moteur de recherche pour pouvoir trouver des vidéos sur Facebook. Et en plus, Facebook annonce aussi de la pub en pré-roll sur ses vidéos. Alors, est-ce que vous connaissez le pré-roll ?
Oui, les pubs avant les...
Voilà, les pubs avant les vidéos. Ensuite, niveau vidéo, on a aussi Facebook Live, qui tente depuis avril 2016 de concurrencer Periscope. Alors, pour le coup, ça marche plutôt bien, surtout du côté des djihadistes. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui utilisent Facebook Live. Ensuite, on peut parler de Twitter, qui est le concurrent toujours de Facebook. Les deux ont à peu près explosé à la même période. Alors, depuis 2013, Facebook offre la possibilité d'intégrer des hashtags dans les publications effectuées sur le réseau social. D'ailleurs, je sais pas si vous utilisez des hashtags dans Facebook.
Non, j'en vois pas du tout.
Bon, c'est assez partagé. Ça marche un peu, c'est assez banal. Les gens, c'est pas non plus la killer app de Facebook. Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Facebook n'a plus que la force de son chiffre impressionnant d'utilisateurs pour continuer à exister. Et finalement, ces utilisateurs-là, ils s'en ficheraient de ces applications, de ces ajouts de fonctionnalités. Mais ça permet quand même de dire qu'il y a du nouveau, du renouveau sur la plateforme et de continuer à la valoriser en bourse. Et au moment où je vous parle d'ailleurs, on annonce LiveStage, qui reprend des codes de Snapchat, mais qui s'adresse particulièrement aux étudiants. Ici, Facebook a essayé de prendre le meilleur de deux mondes. D'abord, le meilleur de l'ancien Facebook, qui s'adressait principalement aux étudiants des universités, avec des groupes qui sont uniquement dédiés à une école, à une université. Et en même temps, Snapchat, avec le côté, voilà, on entre jeune, on se fait des trucs éphémères, c'est trop fun, ouais, yahoo. Voilà. Donc, Facebook, pour le moment... continue à me décevoir. C'était une entreprise qui avait des idées, qui avait un entrepreneur innovateur à sa tête, et aujourd'hui se contente de faire ce que Microsoft fait, ce que Apple fait, c'est-à-dire racheter des grosses boîtes, copier des idées, mais ne se renouvelle finalement jamais.
Ok, donc pour toi, en fait, Facebook aurait atteint la maturité, ce serait devenu la grosse multinationale qu'elle était destinée à devenir.
Alors pour moi, Facebook aurait pu être une entreprise qui aurait pu développer des talents, aurait pu permettre à des développeurs, des designers de créer des nouveaux trucs, les mettre en avant et être une plateforme de partage autour de nouveaux usages du réseau social. Et en fait, comme ils ont grossi, ils sont devenus une entreprise milliardaire, quoi. C'est une entreprise multinationale énorme. Ils se reposent sur leur laurier. On n'entend plus quasiment Mark Zuckerberg que sur sa page Facebook où il fait des vidéos avec sa femme et c'est son enfant. On a l'impression vraiment d'une grosse boîte qui s'encrasse un peu, en fait.
D'accord. Curtis, t'en penses quoi ?
Je suis extrêmement en désaccord. Alors, premier point que j'ai oublié. Donc, je passe directement au deuxième point, mais attention, il fait mal. Alors, Facebook, c'est Internet, en fait. Donc, et c'est très pratique pour les gens comme moi, parce que au lieu d'essayer Snapchat, moi, j'attends que Facebook actualise l'Internet, donc s'actualise et propose cette fonctionnalité. Donc, j'ai pas à m'embêter à installer des nouvelles applications. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est en fait tu as oublié, c'est l'essence même, le copiage, c'est l'essence même de Facebook, puisque on peut dire qu'il a adapté, copié MySpace, mais surtout il a copié Twitter dès le début, pas en 2013 avec le hashtag, mais bien avant avec la timeline, parce que en fait au tout début de Facebook, c'était un espèce de mur tout pourrave, comme on voyait sur MySpace, justement.
Oui, en effet, c'était chacun avait son mur, les gens écrivaient sur le mur des autres, mais on n'avait pas de flux d'actualité. Pour voir ce qui se passait, il fallait aller sur le mur des gens, ou que des gens viennent écrire sur ton mur.
Et ça, c'était la grosse, en fait, update de Facebook. Mais, et le troisième point, que je suis sur le point d'oublier, c'est vraiment la grosse force de Facebook d'actualiser complètement tout le temps son système. Je suis même un peu énervé contre Zuckerberg de pas avoir copié suffisamment tôt Snapchat parce que j'ai failli l'installer. Et ça, c'est mauvais signe. Donc, continue comme ça, Zuki. mais soit plus rapide. Moi, c'est tout ce que j'ai à lui dire.
Alors, je comprends que, tu veuilles troller, effectivement, Facebook et un peu le point de vue qu'il y a en général sur l'idée que Facebook est une entreprise qui copie et rien d'autre. Mais moi, j'ai l'impression que justement, quand Facebook copie, il copie mal. Tu vois, je te parlais de Slingshot. Slingshot n'a pas marché. Les stories Instagram, ça marchera pas. Les gens, je sais pas si t'as vu les stories, il y a que des célébrités qui les font parce qu'on les pousse à le faire. Mais les vrais gens ne font pas de stories sur Instagram. Facebook, finalement, enrichit son offre pour se valoriser de point de vue boursier, pour avoir une entreprise qui a de plus en plus de valeur ajoutée. Mais en fait, tout ça, c'est du vent. C'est que du vent. Et quand tu veux de la vraie innovation...
Ah non, Live... Oh, vas-y. Live va complètement écraser, à mon avis, le live de Twitter, dont je ne me rappelle même plus.
Periscope.
C'est la preuve. Ouais.
Oui, mais tu vois... C'est... Ouais.
Bon, Snapchat va survivre, parce qu'ils ont tous les petits gamins, et c'est tout. Mais non, Facebook est très très bon.
L'avantage de live de Facebook, c'est que tu pars déjà avec un parc d'abonnés qui est énorme, alors que Periscope, c'était un truc qui était tout nouveau.
Non, c'est sûr.
Forcément, live ne pouvait que gagner. Après, moi, ce que je retiens surtout dans cette histoire, c'est que ils ont acheté Instagram pour 1 milliard, alors qu'ils avaient proposé, si je dis pas de bêtises, entre 3 et 4 milliards pour acheter Snapchat. Ils ont acheté un truc qui était vachement moins cher et ils essayent d'en faire quelque chose qui, au final, aujourd'hui, parce que Snapchat vaut entre 18 et 19 milliards de dollars. Donc, la valorisation de leur truc est pas encore au niveau. Hein.
Moi,
c'est clairement parce qu'ils ont plus les moyens.
Tu crois ?
À mon avis, ils ont déjà fait une proposition, le créateur de Snapchat a refusé. Je pense que là, ils se sont dit, ben oui, on va, à moins que la seule façon qu'on aura de racheter Snapchat, ce sera quand il s'effondrera, donc quand il n'aura plus aucun intérêt. Donc là, ils ont fait une application copier-coller, simplement parce que c'est leur dernier
Le problème que moi je soulève par rapport à cette implémentation de la story sur Instagram, c'est que effectivement la story ça marche. Il y a qu'à voir Fibre Tigre dédicace sur Snap pour voir que voilà, c'est des choses, c'est une série télé quoi. Les gens regardent des stories comme on regarderait tu vois les experts. Par contre,
t'es en train de me donner envie là.
Ah oui, mais c'est vraiment moi j'adore regarder les stories des blogueurs ou des artistes qui font des stories qui durent parfois 5-10 minutes, tu vois, et c'est super sympa, tu vois. Mais c'est pas dans l'ADN d'Instagram, même les retours que les gens ont fait de ça, mais ça n'a pas de sens, puisque la story est éphémère par essence, et Snapchat est un réseau social de communication éphémère. Mais Instagram, c'est des photos qui restent, donc les gens qui vont sur Instagram, ils veulent qu'on voit ce qu'ils font. Donc le mieux serait de faire une story qui dure toute la vie, tu vois, mais la story qui dure toute la vie, finalement, c'est la timeline d'Instagram. Donc en fait, il y a un mélange des genres qui ne marche pas, et les gens ne sont pas dupes, et c'est pour ça que souvent dans les stories Instagram, les gens vous disent « Bon, ben venez sur ma story Snap. Je fais un Snap sur Instagram pour vous dire de venir sur Snapchat me regarder. Mm-hmm. » Et voilà quoi.
Ah mais est-ce qu'au final, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est cette durée limite de 24 heures ? Parce que du coup, tu les stockes pas sur le serveur indéfiniment.
Moi, je pense pas.
Pour aussi encourager les gens à être le plus honnête possible, peut-être. Le plus eux-mêmes, et qu'ils ne se censurent pas. Et justement, c'est ce qui fait apparemment l'intérêt des stories et de Snapchat, c'était que les gens étaient eux-mêmes, se mettaient en scène, mais ne se censuraient pas. Ce qui attirait
le problème, c'est que ça dure pas. Ça, maintenant, les gens, ils font des copies d'écran et tout. Donc...
Je fais pas du tout la corrélation entre ce que vous êtes en train de dire et la limite dans le temps.
En fait, il y a un très bon article sur Libération, je crois que c'était sur un blog de Libération de Vincent Glade, où il expliquait que le chef d'Instagram avait expliqué qu'il y avait une espèce de tyrannie comme du like sur Instagram qui était dommageable, puisque les gens, s'ils n'avaient pas un taux de like suffisant, en fait, supprimaient leur image, tout simplement. Et pour éviter justement cette course au like, ils ont copié Snapchat. ou c'est plus un truc vraiment détente ou du balance n'importe quoi sans avoir la peur du mauvais retour.
Sauf que sur Snap, il y a aussi une course à l'audience. Hein. Aujourd'hui, par exemple, moi, mes snaps sont vus par 40 personnes. C'est bien, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des snaps qui sont vus par 100, 200, 300 personnes. Je crois qu'il y en a qui sont même vus par 60 000 personnes. Donc, parce que le snap a un taux de clic. Enfin, je veux dire, quand tu regardes une story, tu regardes jusqu'au bout, tu vois. Donc, il y a aussi une course à l'audience sur Snapchat. D'ailleurs, on paye aujourd'hui des artistes pour faire des snaps sponsorisés. CF, Les Anges à Télé-Réalité, où tu as les gens comme, comment s'appelle-t-elle, dans Les Anges, je connais pas, hein, qui font des... Ouais, j'ai du mal avec les noms...
T'en parles, mais
oui,
tu
connais. Ma copine suit cette personne, et du coup, je vois ses snaps.
Ta nièce.
Ouais, ma copine nièce. Et du coup, je vois, par exemple, une snapchatteuse qui dit « Oh, merci à la marque Herbal Essence de m'avoir fourni ce dentifrice, par exemple. » Et elle reste pendant trois snaps à montrer comment le dentifrice est top. Alors, c'est pas dentifrice, hein, c'est d'autres produits, tu vois, mais... même là, c'est monétisé, et donc là, l'audience a aussi une valeur. Donc, on est toujours à la course à l'audience sur Snap.
Ok. On a un petit peu dévié, donc on va s'arrêter là et passer à la première FAQ.
FAQ numéro 1.
Première FAQ. Alors, tous Pokémon Go-liens. Donc, Pokémon Go, un gros succès, un lancement réussi. 200 millions de dollars de bénéfices la première semaine, il me semble. Alors, vous y êtes mis ?
Je te dirais qu'il ne faut pas confondre bénéfices et chiffre d'affaires. Je pense que 200 millions, c'est le chiffre d'affaires, ça ne doit pas être les bénéfices.
Ok, autant pour moi.
Lancement réussi, je dirais pour une bêta, alpha, oui. Pour un jeu qui consiste à farmer, et parler juste au cœur d'une génération qui n'est pas du tout les miennes d'ailleurs. J'avais jamais joué à un jeu Pokémon jusqu'à
présent.
Quoi ?
Mais comment ?
Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Oh fuck !
Quel âge t'as ? Mais t'as 12 ans ?
Ah non, mais moi je suis de la génération Dragon Ball, j'ai jamais mis la main sur un Pokémon de près ou de loin.
On dirait
jamais.
Je n'ai jamais touché un Pokémon, je vous jure.
Mais par contre, j'ai totalement accroché au concept en tant que hardcore gamer et voilà, j'y joue depuis le 20 juillet et je suis passé à level 26. Mais par contre, je commence à me lasser parce que voilà, j'ai vu le bout. Ils font plus ou moins des mises à jour, mais pour le moment, ils ont l'air de plus se concentrer sur le ban des cheaters, ce qui est une excellente chose, plutôt que sur le fait d'améliorer leur jeu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi, j'ai joué à Pokémon Go un peu avant sa sortie française, que j'ai pu, grâce à YouTube et à ces excellentes vidéos de hack, j'ai pu récupérer la version APK et tout, bref.
Je veux dire comme toute la France, donc, en fait.
Voilà, comme toute la France, qui donc n'a pas attendu. Les chiffres doivent être pourris sur le store Android et iOS, parce que du coup, tout le monde a téléchargé à bien avant. Hein. Bref, et du coup... j'ai bien kiffé au départ. J'ai joué un peu à Paris, puis quand j'étais en Guadeloupe en vacances, j'ai pas mal joué. J'ai pris d'ailleurs un Pikachu et un Poissirène de qualité.
Il y a des Pokéstops en Guadeloupe ?
Bah oui, écoute, ça veut dire quoi ? On n'est pas dans la forêt, enfin, monsieur. Oh. C'est fini, c'est quoi, ça maintenant ? C'est fini le racisme.
Colonialiste.
Bref. Non, ça veut dire qu'il y avait des gens qui jouaient à Ingress en Guadeloupe.
Bah oui.
Oui, partout dans le monde.
Ah, mais c'est pour en savoir. Hein.
Mais tu sais qu'en plus, on a la télé. Hein.
Non, mais.
Non, alors.
Non, mais.
Mais oui,
Ingress,
tu connais la
fois. C'était un peu un jeu de niche.
Ouais, maintenant c'est Guadeloupe première. Bref, donc on a des joueurs à Pokémon Go là-bas. Et je dois dire qu'au bout de 4 jours en Guadeloupe à jouer à Pokémon Go, j'ai supprimé l'application. Pourquoi ? Je me suis lassé. C'est répétitif, c'est assez redondant. Je n'y ai pas accroché. Par contre, le truc Pokémon Go-lien, là, je trouve ça un peu fort de café, parce que c'est un peu descendre en flèche plein de gens qui s'amusent beaucoup à ce jeu. Et ça me fait penser aux vieux, là, qui disent, oh, les gamins, ils sont tous avec leur téléphone près du bidon, ta. Je veux dire, c'est bon, quoi, eux, ils restent toute la journée à regarder Question pour un champion, les gamins, toute la journée, ils jouent à Pokémon Go. Voilà.
Pas que les gamins, hein. Les gamins, ils ont bien jusqu'à 40 ans, facile.
Voilà, mais tu vois, tu es d'accord avec moi, il y a quand même une vision très bizarre de Pokémon Go par la génération qui n'a pas connu tout ça.
Oui, mais comme tous les trucs nouveaux, comme tous les phénomènes un petit peu, on va dire, viraux, il y a une méfiance de la part des médias en place et de la génération dominante, on va dire.
Oui, voilà.
Ouais, on peut laisse parler les gens.
Ouais, les jaloux vont maigrir. Non, mais tu vois, les lois anti-Pokémon Go, tout ça, non, c'est bon, quoi.
C'est une réaction un peu forte à un phénomène nouveau et pas compris, ouais. Ça, c'est un peu ce qui arrive à chaque fois. Et toi, Curtis ?
Alors moi je suis pas très objectif parce qu'en fait je vis dans une dystopie où Nintendo est sorti son smartphone console avant l'iPhone d'Apple. Et donc sur le marché on aurait trois gros opérateurs, c'est-à-dire Google avec son Android, Apple et Nintendo. Un peu pour illustrer ma sympathie envers la marque. Donc moi je suis pour Pokémon Go. Moi j'aime bien aimé une dernière vidéo de Cyprien qui illustrait bien le fait que avant l'image du jeune, c'était le mec était tout le temps enfermé devant son écran, alors que maintenant c'est celui qui est tout le temps dehors à courir derrière des Pokémon Go. Donc je trouve ça vraiment vraiment positif en fait.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez justement de ça, effectivement, comme dit Curtis, Cyprien met en avant ce côté avant, ouais, tu passes ta journée devant ta télé, sors, et puis maintenant qu'on sort, ouais, tu passes trop de temps dehors.
Mais moi, je pense que c'est les parents, en fait, ils veulent être à la fois aimés et craints, et du coup, voir que les enfants font ce qu'ils leur disent de faire, ça les saoule, du coup, il faut qu'ils leur donnent des ordres contradictoires, tu vois. Non, je t'ai pas dit d'être gentil, sois méchant avec moi maintenant. Non, mais tu vois, par exemple, là, je suis en train de lire une phrase de M. Ledoux, donc qui est un député, Vincent Ledoux, député Les Républicains, et qui dit « Ce qui ne devait être qu'un produit de divertissement pourrait se transformer en sujet de danger potentiel si le législateur n'y prenait garde et ne venait y mettre de l'ordre. » Non, mais faut arrêter là, c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont fous, les gens sont fous.
Donc on pourrait conclure en disant que Pokémon Go, c'est un peu l'archétype de tout ce qui est le mal dans les jeux vidéo et source de conflits à la maison.
Quoi ? Mais on n'a pas dit tout ça.
Quoi ? Est-ce que c'est pas du tout ?
C'est un petit peu ce qu'il vient de dire, le député, non ?
Ah, le député, d'accord, oui, d'accord. Je crois que tu disais que c'était nous qui faisions la conclusion de
oui,
ça.
Oui, aussi. J'en profitais pour faire une conclusion un peu ironique.
Quel troll !
Chronique numéro 2.
Et on enchaîne sur la deuxième chronique faite par Sous-X, intitulée Google, page 2.
Ok, allez, c'est parti. Google, page 2, c'est qui, c'est quoi ? Que se passe-t-il au-delà ? Est-ce comme sortir de la matrice ? Est-ce surfer sur le Darknet ? Est-ce Koh-Lanta ? Qu'est-ce que sexe ? Posons des questions à Google. D'abord, pourquoi ? Ensuite, comment ? À la question pourquoi, Big G nous répond par 208 millions de résultats en 0,33 secondes. Essayez déjà de réciter toutes vos tables de multiplication de 1 à 9 en 10 minutes et on en reparle. À mon grand étonnement, ce n'est qu'en page 2 que Wikipédia a la chance de figurer pour nous donner la définition de ce mot suivi de « pourquoi pas », toujours sur Wiki, qui serait en fait le quatrième navire du commandant Jean-Baptiste Charcot, chronique ludique. Sinon, page 10, on a Élodie Gosselin, pourquoi elle s'est mariée une nouvelle fois avec machin, qui pour le coup est à sa place dans le classement du moteur de recherche coloré. Mais ce n'est qu'à la 20e page qu'enfin je tombe sur solution pour gagner plus d'argent, pourquoi gagner plus 3 petits points. Donc les trois petits points, je les esquive, hein, direct. Et je lis le résumé sous le titre. Alors, attention les oreilles, c'est quelque chose de costaud. Alors,
pas si impressionnant que à pourquoi plus gagner de l'argent dans les multiples annuaires spécialistes de la fille de 16 ans pour obtenir une récompense beaucoup trois petits points. Ça devient malsain, je m'arrête là, mais je posterai sur le forum une capture d'écran, je vous assure que c'est vrai. Passons à la deuxième question qui est comment. Et là, waouh, c'est 4 milliards de résultats en 0,29 secondes, soit plus de contenu en moins de temps. Page 1, le vainqueur, c'est le site auféminin.com avec... Allez-y, donnez-moi...
Comment perdre les kilos qu'il faut pour avoir le corps prêt pour l'été ?
Eh, t'es pas loin, mec ! Comment perdre mon ventre ? Trois petits points, encore, intelligemment. Pourquoi ? Parce que faire ça à l'arrache, c'est en page 2 ? Peut-être. Non. En fait, en page 2, on trouve « Comment je suis devenu invisible ?» France 4 a vraiment bien choisi ses tags pour rester dans l'ombre avec son documentaire. Humour ou référence à la citation qui dit, je cite, « The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. » Je sais, j'ai un accent de merde. Et SFR, lui, nous gratifie page 10 d'un « Comment paramétrer Internet ?» pour ceux qui seraient déjà arrivés jusque-là. Et enfin, page 20, « Comment faire bouger son mammouth ?» What the fuck? Comme quoi le web, c'est pas jeune, et nos ancêtres avaient aussi des problèmes de transport. Bon, concluons. Google page 2, Google page 2 et amis risquent de disparaître au profit d'un fil interminable, comme sur Facebook ou Twitter, puisque dans l'air du temps. Je cite en exemple les forums à pages multiples où vous arrêtez à lire quand vous êtes à la page 3 sur 76, alors qu'un flux continu vous fait doucement glisser vers quelques heures dont vous ne saviez que faire si ce n'est cacher une confession intime. Hashtag le forum. Bon allez, je vous laisse. Mon mammouth est en double fil et ma chronique ne tient que sur deux pages.
Bravo. Curtis. Est-ce qu'il t'arrive d'aller plus loin que la première page de Google ?
Non, parce que ça voudrait dire que j'ai mal tapé ma requête.
Intéressant. Tu considères, un peu comme Quant, le moteur français, qu'une seule page de résultats suffit et que si on veut plus de résultats, il faut repenser sa question, en fait.
Complètement. Moi, j'utilise vraiment les formules de Google, c'est-à-dire les, par exemple, site2. Et gouv.fr. Et dans ce cas-là, il me donne que les sites qui terminent par gouv.fr ou ce genre de choses, ou file type, ou les trucs, ce genre de requêtes.
Ok.
Ouais, des requêtes ciblées.
Flash, tu utilises souvent Google ?
Jamais Google, non, jamais.
Yahoo !
Oui, j'utilise beaucoup Google, mais et justement, moi, alors ça va être un peu narcissique, mais je ne vais au-delà de la page 1 que quand je me googlise moi-même.
Ah. Ouais.
Et du coup, par exemple, là, je me suis googlisé et j'aime pas trop ce que je vois. Il y a énormément de choses, bref. Et donc, du coup, et quand tu googlises les gens, effectivement, quand tu veux stalker, tu fais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au moment où tu tombes sur un site genre chiapas.com et tu te dis, ah là, ça n'a plus de lien avec cette personne. Donc là, tu arrêtes. Mais moi, sinon, quand je cherche quelque chose, en général, les 2-3 premières réponses, je m'arrête là.
Je suis entièrement d'accord avec Curtis. On a l'habitude, si on trouve pas ce qu'on cherche dans la première page, on reformule. Mais c'est un truc que ceux qui ont connu le début d'Internet avaient énormément l'habitude de faire. On a été éduqués à bien poser nos questions au moteur de recherche.
Oui,
ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Mais à l'époque, les moteurs étaient quand même moins performants.
Ouais, mais justement, ça nous a éduqués à bien poser nos questions en se disant comment la personne en face, qui va éventuellement poster un truc sur un forum, va titrer son post de forum et comment je dois formuler ma question. C'est quelque chose qu'on fait, enfin que les jeunes aujourd'hui, qui sont nés avec l'outil en main, ne font plus du tout.
Mais du coup, il n'y a plus de sérendipité sur Internet. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de sérendipité, puisque vu qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, directement qu'on n'a pas la réponse première page, on tape une nouvelle requête. Et si on fait comme ça depuis le début d'Internet, en fait, le fameux mythe de la sérendipité du web où on trouve tout et n'importe quoi au fil de la navigation, c'est un peu fake du coup, puisqu'on se laisse pas, on laisse pas la chance au moteur de nous offrir de la nouveauté.
Bah, durant mes recherches, je me suis aperçu, je suis tombé sur un article qui disait que Google était en train de réfléchir justement à supprimer les pages, les différentes pages, et de créer un flux continu, comme sur le forum 404, comme sur Twitter, comme sur Facebook, et qui permettrait en fait de faire défiler. T'as moins l'impression d'avancer, de t'ennuyer au final, quand tu fais défiler avec ta souris, plutôt que de cliquer sur page 2, page 3, page 76, 75, machin.
Ils enlèvent un obstacle et peut-être aussi ça rend les résultats fournis, ça donne l'illusion que les résultats sont plus pertinents que si on avait à cliquer sur page 2. C'est la démarche de tourner une page, de laisser tomber la page 1, alors que là c'est vrai qu'avec un flux continu, on a moins l'impression de quitter la page 1, justement.
C'est ça, puisque ouais, page 1 c'est la page de référence. En gros, si tu vas dans la suite, c'est que tu vas un peu dans le limite le darknet, tu vois. c'est comme si tu quittais la voie de la lumière pour aller dans les ténèbres.
Quand tu tombes sur comment faire bouger ton mammouth, je peux te dire que tu te sens moyen quand même.
D'ailleurs, c'est un peu à part, mais il y a un truc, c'est comment devenir ninja rapidement. C'est un blog qui recense, je crois, toutes les recherches les plus bizarres de Google, et c'est vraiment pas mal. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez regarder, mais...
Ok, on rajoutera ça dans les notes de l'émission, ça peut être rigolo. Dans ce cas-là, on peut passer à la FAQ numéro 2.
FAQ numéro 2.
Dans 10-15 ans, on sera en VR ou en VA? Alors, je suppose que c'était plutôt en VR ou en RA.
Oui.
Ou en AR. Enfin bref, du coup, est-ce qu'on sera en réalité virtuelle ou en réalité augmentée?
Grande Vas-y, question. Curtis.
Curtis, vu que c'est un sujet qui te parle.
Oui, car en effet, ce sera le sujet de ma prochaine chronique à venir. Merde.
Toi, tu vois.
Voilà. La chronique s'annonce tellement bien.
Tourette. Bite.
Ok, donc tu prends plutôt une victoire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée?
Je dirais les deux, mon colonel.
Ou peut-être justement qu'elle nous ponde un rejeton contre nature mélangé.
Non, je dirais les deux, mon colonel, mais la réalité virtuelle... Non, ouais, la réalité virtuelle, ce serait juste en marge un peu pour les gros gamers. Et alors que la réalité augmentée, ce sera pour tout le monde, un peu comme à l'instar des smartphones maintenant. Donc, tout le monde aura un système de réalité augmentée.
Donc tu ne crois pas du tout en l'évolution technologique au final?
Au contraire.
Bah, quand tu parles de réalité virtuelle, tu t'enfermes totalement dans un monde où tu es coupé du monde réel. C'est totalement flippant, alors que la réalité augmentée, tu peux sublimer la réalité tout en évitant de tuer. Je sais pas, t'es dans GTA en réalité augmentée. Ta nana débarque dans le salon avec la pizza, hashtag Curtis, hashtag Flash, tu lui tires pas dessus, tu la vois, mais tu restes conscient de ton environnement. Dans la réalité virtuelle, t'es totalement coupé. Pour le porno, je dis pas, mais...
Oui.
Mais c'est pour ça, c'est pour les gros gamers.
Ben, le porno en réalité augmentée au milieu de la rue, c'est un peu bizarre quand même.
Mais c'est pour ça, moi je dis pour les gros gamers, pour le porn et pour le film... Ce sera réalité virtuelle, mais toutes les autres applications du quotidien, ce sera en réalité augmentée. Par exemple, tu vas, tu fais du tourisme et tout de suite, hop, ça te montre, tiens, tourne à droite parce que tu auras la belle cathédrale à mater. En plus, ça te donne des indications. Oui, c'est du gothique. Et ça, ce sera le quotidien dans 30 ans, je dirais.
On jouera encore à Pokémon Go dans 30 ans, tu crois?
Ah non, sauf que ça sera ok. Mais je suis d'accord qu'on ne sera pas avec dans ta main une espèce de brique. mais c'était un smartphone, mais ce sera directement rétinien.
Il y a Sony qui travaillait là-dessus, je crois. On a eu des news récemment.
Je peux me permettre de réagir sur ce sujet ?
Vas-y.
Toi, tu lis, j'ai l'impression, je parle à Curtis, bien sûr, tu lis réalité augmentée, réalité virtuelle, et je pense que beaucoup de gens font cet amalgame-là, comme si ces deux éléments sont soit antagonistes, soit complémentaires, alors qu'ils représentent pour moi deux réalités très différentes et deux utilisations très différentes.
Une virtuelle, une augmentée.
Oui, mais tu veux dire, mais quand on parle de... C'est-à-dire que j'ai l'impression souvent que, par exemple, quand il y a eu l'annonce de HoloLens, qui était concomitante à l'annonce du Vive et de l'Oculus, que quelque part, il y avait une sorte de glissement global vers... parce qu'il y a des lunettes, machin, on est un peu dans le même délire, il y a des applications de jeux, machin.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est deux usages vraiment différents. Et c'est pour ça que je dis RA, ben non, c'est plutôt pour le quotidien, alors que VR... Ce sera pour les films et tout ça, et pour le jeu vidéo. Mais les deux sont, ce sera deux usages parallèles, mais l'usage dominant, c'est l'usage que tu as au quotidien, donc augmenté.
Et je pense que justement, il peut y avoir. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est pas que je cherche le désaccord par essence, mais je pense qu'il peut y avoir deux quotidiens, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est deux choses qui sont tellement parallèles que le quotidien de la réalité virtuelle. Et va exister. Il va exister pour des gens qui auront plus de moyens, par exemple, ou des gens qui auront envie d'expériences immersives de meilleure qualité à leur domicile, alors que la réalité augmentée, elle sera plus avec des applications professionnelles, notamment, ou ce sera le quotidien des gens dans le monde de la médecine ou de la recherche. Mais je pense qu'il y a deux quotidiens qui vont coexister. Et une même personne peut avoir ces deux éléments qui viennent alimenter son quotidien. C'est ce que je pense.
Moi, je dirais même deux personnes différentes. Ah, si je peux me permettre, je dirais même deux personnes différentes. Parce qu'en fait, dans 30 ans, donc tout le monde aura des mécanismes rétiniens pour voir en réalité augmentée, donc avec des incrustations devant les yeux. Et en fait, on aura un effet avatar, c'est-à-dire que moi, handicapé, moche, ben, ce que j'aime faire, c'est que j'aime créer un avatar qui...
Qui sera blown,
confession intime.
Bruce Willis, où ils sont tous remplacés par des robots, version jeune.
Non, parce que là, premièrement, ce ne sera pas des robots, parce que ce sera des avatars qui seront incrustés chez les gens qui seront en réalité augmentée, qui se promèneront tranquillement dans la rue réelle.
D'accord, et qui verront en fait la meilleure version de toi.
Non. Donc moi je me promène en réalité augmentée et dans ma je me promène dans la réalité, dans l'IRL, avec un casque de réalité, avec des lentilles de réalité augmentée. Et donc en temps réel, je peux avoir des incrustations devant les yeux et je vais voir en face de moi, par exemple, quelqu'un qui arrive sur le trottoir et qui lui sera en fait dans son casque de réalité virtuelle,
une sorte de masque en fait, masque de toi.
Non, une autre personne. C'est juste que cette autre personne sera par exemple handicapée.
C'est-à-dire qu'elle ne sera pas vraiment là, mais elle se baladera.
Mais elle se baladera et elle sera visible. Alors qu'elle est dans le virtuel, elle sera visible localement, géographiquement. Elle pourra se géocaliser et moi je pourrai la voir.
Pas comme un MMO dans la vraie vie.
Ouais. Sauf qu'il y aura des gens en virtuel et des gens en réel.
D'accord.
C'est hyper dangereux de... t'imagines un handicapé en fauteuil avec un casque de réalité virtuelle.
Non, lui, il est chez lui.
Lui, il sera chez lui, il se balade dans Google Maps, et toi, tu vois l'endroit où son point est dans Google Maps.
Ce sera pas un point, mais lui-même, son avatar.
Voilà.
Alors, donc, tu superposes la matrice à la réalité.
Et avec ça, tu te fais des pornes de fou.
Voilà, j'ai pas peur. Ok.
Non, le porn, ça reste à la maison.
Bah oui.
Le porn, ça n'a rien à voir avec les handicapés dans la rue, devant tout le monde. Je suis pas d'accord. Déjà, non, l'émission dernière, on envoyait des zizi dans l'espace. Arrêtez.
Je pense sincèrement qu'on peut faire du porn dans la rue. Moi, je respecte les gens qui veulent faire du porn dans la rue.
On va s'arrêter sur cette belle conclusion de Flash Thompson.
Moi, je suis pour l'amour.
Merci beaucoup.
Ce message d'espoir.
Allez, on passe à la suite. Merci.
Passons à la suite.
Chronique numéro 3.
Et on enchaîne avec la troisième chronique, la mienne. Je vais vous parler de ma vie avec FOMO, la petite sœur toquée de Sérendipité. Pour moi, tout a commencé par une nuit sombre le long d'une page blanche de Google Docs, alors que je cherchais un sujet que jamais je ne trouva. J'ai eu l'idée de lister toutes les chroniques du Studio 404. D'une, pour éviter de refaire un sujet, 40 émissions x 4 sujets, ça couvre beaucoup de sociétés numériques. De deux, pour démarrer un petit projet un peu fou sur le forum de qualité, dont je vous parlerai plus en détail dans les notes de l'émission. Et de trois, parce que j'espérais trouver l'inspiration en revoyant tous les thèmes abordés par Mélissa, Daz, Sylvain et Fibre Tigre au cours de leurs 3 années et plus d'émission. Un petit tour sur le SoundCloud de l'émission et c'est plié, me disais-je. C'était sans compter sur ma compagne de toujours, celle qui jadis faisait dire aux adultes « Oh, il est studieux ce petit, il a toujours un livre entre les mains !» Celle qui aujourd'hui hante mes sessions de surf numérique, toujours en embuscade derrière chaque mot en bleu sur Wikipédia. J'ai nommé la FOMO. Alors c'est pas un acronyme chelou pour parler de trucs sexuels bizarres, hein. C'est la Fear of Missing Out, autrement dit, la peur de manquer quelque chose. J'ai donc succombé à l'appel de ma sirène et j'ai réécouté 2-3 chroniques dont je ne me souvenais plus assez à mon goût. Parmi ces chroniques, celle de Sylvain lors du 3e épisode de Studio 404, en décembre 2012 déjà, bientôt 4 ans, dans laquelle il nous parlait de sa peur de voir disparaître la sérendipité sur Internet. En bref et simplifié, la sérendipité c'est découvrir quelque chose par hasard alors qu'on cherchait autre chose. Suite à la chronique, Fibre Tigre parle des bombes à chauve-souris. Et là, j'arrête l'écoute, j'ouvre mon navigateur pour aller regarder la page Wikipédia en question. Erreur fatale, car ce navigateur restaure automatiquement les onglets ouverts lors de la dernière session. Et là, je me retrouve face à Feedly, environ 100 articles à lire dans mes flux RSS, le forum de qualité, plein de petits ronds bleus sur la page d'accueil, et oui, je lis tout, et Gmail, ouh, la récap hebdomadaire de Quora, ouh, Medium a fait son petit récapitulatif de poste. Avant de me plonger dans mes flux RSS, je me souviens in extremis que je voulais en savoir plus sur les bombes à chauve-souris. Un nouvel onglet, une recherche rapide dans Wikipédia, et l'article est là, prêt à être lu. Mais, juste après que j'ai survolé vite fait les centaines de titres qui m'attendent dans Feedly. Premier article, Vice, jouer au polo avec une chèvre morte. Ça me rappelle qu'il y a un topic des sports insolites sur le forum de qualité, et que je n'ai pas pu regarder les vidéos partagées par les Qualitos, car YouTube est bloqué à la COGIP. Paf, deux nouveaux onglets. Je pense que je peux m'arrêter là, vous aurez compris, ça continue encore et encore. Pour moi, c'est Wikipédia, YouTube et les flux RSS, pour d'autres ce sont Snapchat, Instagram ou Twitter. Une fois le doigt dans l'engrenage, on y passe le bras, tout le reste du corps, on finit en bouillie à la fin. J'ai quand même fini par arriver au bout de tous mes onglets ouverts et reprendre la liste des sujets du Studio 404. Finalement, je suis revenu sur l'épisode 3 et la chronique de Sylvain. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Oui, pour toi, Sylvain. La flânerie sur les internets ne disparaîtra pas de sitôt. En tout cas, pas tant qu'il existera des toqués comme moi qui ne pourront pas s'empêcher de toujours vouloir en savoir plus, quel que soit le sujet. Des secrets de développement de GoldenEye 64 à l'histoire de l'éclatement du monde arabe. En passant par les états d'âme d'une blogueuse mode face à Instagram. En conclusion, je vous propose mon top 3 des solutions pour tenir FOMO en laisse. Pour ceux qui ont beaucoup de flux RSS et de newsletters, une fois qu'on se rend compte qu'on zappe quelques articles, on se désabonne. Comme ça, on ne rajoute pas de site tant qu'on n'en a pas enlevé au moins 2. Limiter le nombre d'onglets ouverts. Il y a des extensions pour ça. Personnellement, j'arrive à me limiter à 10-15, mais... je pense que je vais prendre une extension pour me bloquer à 5. Et enfin, éviter Wikipédia autant que possible. Car oui, à chaque fois que j'ouvre une page, je finis des heures et des heures dedans. Et vous, les autres, mes amis chroniqueurs, est-ce que vous souffrez de FOMO? Si oui, comment le vivez-vous? Sinon, que vous inspire cette tragique histoire?
Alors moi, je vais te dire, je vais te filer le numéro de mon médecin direct. Déjà. Et je suis un peu comme toi, mais sur plutôt sur YouTube. Je connais pas Feedly,
un agrégateur de flux RSS.
Ouais.
Il remplace en fait Google Reader.
Oui, Google Reader.
Google News. Le même problème.
Si je vous affichais la liste de mon avoir plus tard de YouTube, je pense que une vie ne suffirait pas. Entre
Ouais, entre les vidéos de c'est quoi Internet, comment ça marche, de comment coder, enfin, je pense que je peux prendre un an de vacances, et même un an de vacances suffirait pas à regarder tout Internet.
Un petit chiffre
enfin,
aussi.
Toutes les vidéos.
Dans Pocket, qui permet de mettre des articles de côté à lire plus tard, un petit peu comme la liste à regarder plus tard de YouTube, j'ai 1195 articles à lire.
Oh pétard.
Ça pour l'histoire des onglets, en fait, la solution, c'est d'avoir un ordinateur pourri. Et tu peux mettre que 3, 4.
C'est aussi une solution, en effet. À la Cogip, j'ai un ordinateur pourri. Et effectivement, ça permet de me concentrer sur mon boulot.
Sur Windows XP ou...
Ah non, c'est Windows 7, mais c'est un poste pourri.
Oh, ça va, t'es dans le futur.
Le futur de la Cogip. Hein.
Moi, je suis encore à Windows XP au boulot.
Mais sur l'histoire de la sérampidité, moi, je trouve qu'il y a une... Ouais, le truc avec PD dedans... Pardon, ça va dans le coupé. Sérampidité, non, c'est comment ? Bon, en gros, vous avez... En gros, vous avez compris le mot. En fait, c'est un. Tout le monde se trompe en utilisant ce mot. Tout le monde se trompe pour se donner l'utilise pour se donner bonne conscience. Lorsqu'il exerce son moment de glande sur Internet, alors qu'en fait, la sérampidité ou lipidité ou lipidité, c'est pas du tout.
Sérendipité.
Mais fortuité, comme disent les Québécois. Ce que j'ai maté le Wikipédia, c'est pas du tout ça. En fait, c'est normalement tu trouves par accident, tu fais par accident une découverte, mais c'est pas tu glandes toute ta journée sur Internet, ça a rien à voir. C'est normalement c'est une découverte, par exemple une découverte scientifique, une découverte technique, et pas du tout une augmentation de ses connaissances.
Par extension, une trouvaille.
Oui, mais une trouvaille pour le reste de l'humanité, pas pour...
Oui, à la base, c'est un terme qui a été utilisé pour des scientifiques. Mais comme tout terme pointu, utilisé par seulement une petite communauté, il est tombé dans le langage courant sous une forme un peu déformée.
Complètement déformée, puisque maintenant, il est... Comme je disais, il est... Il te donne bonne confiance, bonne conscience quand tu glandes sur Internet.
La sérendipité, c'est pas glander, c'est juste le fait de découvrir.
Mais non, c'est
de découvrir par hasard quelque chose.
Non, je ne répéterai pas ce mot.
Sérendipité. Allez, sérendipité.
Non, je ne vais même pas essayer. Je ne vais même pas essayer parce que c'est donner trop d'importance à ce mot qui maintenant résume que de la glande. Parce que avant, en fait, on avait canal satellite et quoi pas moi, mais le copain qui était riche en l'avait. Et notamment il y avait des films pornographiques, mais pas seulement, mais il avait tellement de chaînes que tu, ou pareil, maintenant quand tu es dans un hôtel, tu as tellement de chaînes que tu passes plein de temps à mater toutes les chaînes, t'as trop de FOMO parce que peut-être que sur le canal 203 il y avait un super truc sur le canal japonais, ouais. Et en fait c'est ça, c'est exactement la même chose, sauf que tu le fais ça avec tes onglets.
Lâche, tu as trop d'onglets ouverts toi aussi.
Voilà, j'allais parler des onglets et j'allais parler des onglets et aussi ouais. Des mails. En fait, j'ai un petit problème, c'est que moi, quand j'ouvre Google Chrome, et je crois que j'ai ce problème-là qu'avec Google Chrome, c'est que je peux me retrouver parfois avec 15-20 onglets ouverts, dans ma boîte mail, dès que je vois un site marrant avec une newsletter, je m'inscris à la newsletter. Et je me demande si c'est pas un peu du FOMO, ça, la peur de me manquer de l'info. Les newsletters aujourd'hui, c'est j'en ai plein. Là, ma boîte mail, si je vous dis dans la partie... Ah non, mais j'ai fait du nettoyage, tu vois, mais... voilà. J'ai fait mon nettoyage au mois de juillet, ok ? Dans la partie annonce publicitaire, j'ai déjà 315 mails non lus.
Tu utilises quoi comme boîte mail ? Inbox ?
Non, Gmail. Enfin, la boîte Gmail, normal.
Ouais, mais... La nouvelle version de Gmail, c'est Inbox.
Oui, mais tu peux toujours utiliser Gmail.
Non, parce qu'en fait, pour le moment, je peux accéder à Inbox ou accéder à Gmail normal. Enfin, la boîte classique.
Tu restes...
Actuellement, je n'utilise pas Inbox sur mon PC, j'utilise la boîte Gmail normale. Mais effectivement, c'est... Et du coup, dans la partie promotion de Gmail, promotion, donc c'est tout ce qui est les newsletters et tout. J'en ai de Cheers, j'en ai de Asos, tout ça. Et j'en ai 315 depuis le 29 juillet déjà. Encore un mois à peu près.
Ok, ça fait pas mal.
Donc, ouais, et c'est pareil pour les vidéos YouTube, comme tu disais, Suzy, que je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est les abonnements, je m'abonne à toutes les chaînes que je trouve.
En résumé, Flash, Suzy et moi, on a un petit peu, beaucoup atteint de FOMO. Curtis, toi, non?
Ça, non, moi aussi, mais moi je dis que c'est pas de la FOMO.
Je dis que c'est pas de la sérendipité.
Moi je dis que c'est de la glande. Voilà,
en gros, la sérendipité, c'est quoi? C'est un peu l'effet ricochet, c'est-à-dire que tu vas regarder un truc qui t'intéresse, qui va t'amener sur un truc qui t'intéresse, qui va t'amener sur un autre truc qui t'intéresse. Et plus ça va et moins ça t'intéresse, mais tu le mets dans à regarder plus tard.
Ça, c'est la définition. Voilà. Le début de ta phrase, c'est la définition, on va dire, mainstream de sérendipité. La fin, c'est le FOMO, le fait de continuer quand même et de garder sous la main. Et ce qui énerve Curtis, c'est que du coup, c'est juste des excuses pour glander.
Mais en fait, il faudrait qu'on définisse clairement qu'est-ce que la glande, qu'est-ce que pas la glande, parce que quand on n'est pas actif en train de faire de courir à droite à gauche, effectivement, on a l'air d'être oisif. Mais en fait, quand tu ingurgites de la connaissance, moi, je suis désolé, sur YouTube, j'ai appris à utiliser plein de logiciels, After Effects, Photoshop, Illustrator, c'est YouTube. Et c'est justement par cette fear of missing out, j'ai peur de pas connaître, de pas être efficace, de pas être suffisamment pro sur un logiciel. Du coup, je mate toutes les vidéos que je trouve sur le sujet. Parce que voilà, j'ai envie de m'améliorer, et en fait, je suis assis dans mon canapé, certes, mais tout ce que je fais rentrer dans mon cerveau en termes de skill et en termes de savoir-faire, bah, c'est pas du tout de la glande, je suis désolé, la glande c'est autre chose, c'est pas ça.
FAQ numéro 3.
On enchaîne avec la troisième FAQ, on va parler d'e-sport. Est-ce qu'on va un jour finir par regarder la finale de Counter-Strike sur W9? Flash.
Hey, salut les amis. Non, j'ai connu. Non, alors l'e-sport. Alors l'e-sport, si vous connaissez pas, c'est le sport électronique, hein, tout simplement. Donc c'est le fait de jouer à du jeu vidéo compétitif. Ça peut être du League of Legends, du FIFA, du Street Fighter, du Tekken. Il y a énormément de compétitions dans le monde. C'est dans certains pays, c'est devenu le sport national, comme la Corée du Sud. Il suffit juste d'avoir une console, deux mecs qui s'affrontent, deux ou plus, hein, qui s'affrontent sur des jeux. Et donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ça rapporte énormément d'argent. Et la France commence déjà à se faire remarquer dans ce domaine-là. Elle commence alors que dans d'autres pays, ça existe depuis 15 ans, mais bref. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se pose la question, est-ce que ce sera bientôt diffusé sur TF1? C'est parce qu'en fait, TF1 va le diffuser, en fait, tout simplement. Puisque le 20 mai 2016, TF1 a annoncé organiser son premier tournoi e-sport, la Hearthstone Extra Cup, et avait déjà commencé à diffuser la finale de la FIFA Interactive World Cup sur une chaîne de son groupe, alors laquelle, je ne sais plus exactement. Faut savoir aujourd'hui que l'équipe TV, chaîne de la TNT, enfin l'équipe 21, diffuse actuellement des matchs de FIFA le week-end, le vendredi soir, il me semble. Donc aujourd'hui, l'e-sport rentre dans la télévision et je pense que dans quelques années, voire quelques mois, hein, puisqu'il y a des choses qui se préparent actuellement, on risque de voir de plus en plus d'e-sport à la télévision.
C'est une bonne nouvelle pour l'e-sport.
Ah oui.
Très bonne nouvelle.
Vous en pensez quoi, vous, les autres?
Moi, je suis pour l'e-sport, mais avec un I à la place du E.
C'est-à-dire?
Pourquoi?
Bah, esthétiquement, je trouve que c'est plus moche.
Ok.
Mais plus sérieusement, okay. Moi, je n'y crois pas trop. Par exemple, aussi, on nous a annoncé la révolution des petits sports, c'est-à-dire les sports autres que le football, que le handball un petit peu, et que le rugby. Donc ces petits sports orphelins médiatiques, avec la TNT, ils seraient maintenant ils auraient leur heure de gloire. Et en fait non. Après on a dit la même chose.
Pas trop vérifié.
Ouais. Après on a dit la même chose avec l'essor de YouTube français Dailymotion, que Dailymotion avait une fonction. Oui, il avait une fonction live et dessus, il commençait en fait à diffuser, prendre des matchs de Division 2, des trucs tout pourris. Et ça devait être aussi l'avenir, de montrer des petits sports orphelins médiatiques dessus. Et finalement, non. Et je pense que ça va être pareil avec l'e-sport.
N'importe quoi.
Avec un i.
On est d'accord sur une chose, ça c'est pas demain la veille que ça va détrôner le football en prime time. Mais il y a quand même une bonne chance pour que on est autre chose que des finales des matchs de FIFA sur l'équipe 21 le vendredi soir après en fin de soirée quoi.
Attendez les gars, parce que je crois que vous ne comprenez pas le truc de l'e-sport là. J'ai envie de pleurer là.
Non, je pense que t'as pas compris ce qu'on est en train de dire.
En gros, c'est marginal. C'est un truc qui est marginal pour vous.
Bah, le mieux, c'est comme a dit Emeric. C'est
ça.
Vous êtes ouf. Alors, attendez.
C'est pas demain la veille.
En France, pour l'e-sport, il y a eu environ 1,4 million de spectateurs pendant l'année 2016. Ensuite, en 2018, on prévoit 2,7 millions de visiteurs uniques sur Twitch. Visiteurs français.
Oui.
Ouais, sur Twitch, mais sur plein de canaux. Ouais, et sur plein de canaux différents.
Mais pour l'instant, là, le truc, c'est que là, la télé reste.
Pour les
vieux. Le gros truc où il est vieux, les vieux, bah, pour l'instant, c'est ceux qui sont les plus nombreux.
Sauf que la génération qui consomme, qui achète. Ah bah justement, en plus j'ai fait une étude de marché en fait là-dessus pour ma formation. On a fait un projet sur une agence d'événementiel e-sport. Et par exemple, rien qu'en investissement, enfin en chiffre d'affaires généré, le e-sport va générer cette année 22 millions de dollars en France, alors qu'on n'est même pas encore en plein boom du truc. Je pense qu'en fait, les grosses marques et les grandes chaînes de télévision se rendent compte, en fait. Et c'est pour ça que TF1 diffuse de l'e-sport, va diffuser de l'e-sport en chaîne principale. C'est qu'en fait, ceux qui consomment, ceux qui voient de la publicité aujourd'hui, qui vont aller dans les boutiques ou sur Internet pour acheter des trucs, eh ben c'est les jeunes, c'est pas les vieux. Donc faut donner des programmes pour les jeunes. C'est pour ça que Cyril Hanouna, qui parle plus aux jeunes, il a 50 heures d'antenne sur D8. C'est pour ça qu'on a tout changé sur Canal+ pour changer complètement la grille. Aujourd'hui,
vous remettez Cyril Hanouna sur Canal+.
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une génération de gens qui va forcément, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est une génération de gens qui prennent la place. Et l'e-sport aujourd'hui est prête à prendre la place de sport majeur. Je rigole pas.
Pourquoi vous parlez de vieux dans l'audience de l'e-sport, Curtis et Emeric?
Je parle pas de vieux dans l'audience de l'e-sport. Moi, ce que je disais, c'était que quand je disais que c'était pas demain la veille que l'e-sport va remplacer le football à la télé.
Oui, ça
d'accord. Parce que les gens qui regardent la télé, on est vieux, et à part ceux qui regardent D8. et que les vieux vont pas regarder de l'e-sport, donc tant qu'il y aura des vieux qui regarderont la télé, il y aura des matchs de foot. Et puis de toute façon, il y a pas que des vieux qui regardent le foot. Hein,
oui, c'est sûr.
Il y a plein de générations qui regardent le foot. Donc le foot va rester. L'e-sport va se tailler une place probablement, mais ce sera pas tout de suite. Mais ça va arriver petit à petit. Ouais. Ce que disait, vas-y Curtis, ce que tu disais toi.
Pardon, non, j'invite seulement les auditeurs à écouter le premier épisode de Studio 405 où Flash Thompson dit « Ah mais non, mais la télé, c'est vraiment un métier de vieux, je suis bien content que ça meure et tout ça. » Et aujourd'hui, un mois plus tard, « Ah non, mais la télé, c'est bien, ils vont passer de l'e-sport pour les jeunes. »
Ah non, alors attends, écoute-moi bien.
C'est pas ce qu'il est en train de dire.
Je suis vraiment toujours, je campe sur ma position, la télévision c'est un truc pour une génération qui... Alors, le mot vieux peut-être n'est pas bon, en tout cas pour une génération qui fonctionne à l'ancienne. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, il y a un vrai effort de ces médias-là qui ont peur de disparaître, parce qu'ils ont envie de survivre quand même, ces médias. La télévision, c'est quand même plus de 60 ans d'existence en France, en tout cas. Donc, ils ont envie encore de maintenir le cap, et du coup, ils essaient de rajeunir leur programme. Ils donnent raison à ce que je disais. Ils sont en train de mourir. Et pour ne pas mourir, ils finissent par s'adresser à une audience plus jeune. Hein, CQFD.
Ouais, en gros, la télé est en train de devenir un moniteur plus qu'un téléviseur.
On peut dire ça.
Ils sont enfin en train de comprendre ce qui leur arrive, en fait.
Oui, c'est ça. Et
je pense pas que l'e-sport perce sur le canal télévision tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais que ça prenne une ampleur énorme au même titre que les programmes télévisés ou le cinéma, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, ça rapporte autant, voire plus que le cinéma. Et donc, oui, sur un ordinateur, c'est un marché qui est totalement énorme. Amazon a
peut tirer des canons entiers de piñata pour avoir racheté Twitch. Je pense que Google doit s'en mordre les doigts, Facebook doit s'en mordre les doigts, pareil.
YouTube Gaming derrière.
Ouais, voilà, YouTube a essayé de lancer son propre truc, mais je pense que demain, Twitch, c'est la télé e-sport.
Ah oui,
et pas que, ils ont ouvert des canaux à d'autres choses. Il y a déjà des émissions et des podcasts qui se font en live sur Twitch, des émissions régulièrement. Par exemple, je crois que c'est Nowtech TV qui se fait. Ou non, je crois que c'est sur Periscope. Mais je crois qu'il y a d'autres podcasts ou d'autres.
Aux États-Unis, il y a Game Over Greggy, je crois qu'ils font un truc sympa.
Ils font des trucs sur Twitch en direct, comme des émissions télé, mais à heure fixe en quotidienne ou en hebdomadaire. Donc, c'est en train un peu de remplacer la télé pour pas mal de gens.
Et un peu de petite auto-promo vite fait, puisque j'ai une micro-chaîne YouTube qui s'appelle Apollo 33 sur laquelle on suit.
Apollo 33.
Sur laquelle on suit du coup beaucoup le mouvement e-sport sur Paris. Et dans nos discussions avec des acteurs, je sais pas si on peut les nommer, mais quoique je sais pas si c'est pas très officiel, mais donc de gens à qui on a discuté, il y a vraiment des choses qui se préparent là, d'ici septembre, tout le 2017-2018. Déjà, en Ile-de-France, il va y avoir de super choses en e-sport, et à mon avis, ça va être un moment charnière où vous allez vous rendre compte que d'un seul coup, France 2, France 3, Canal+. Canal+ va lancer, je peux le dire, je crois que c'est officiel, Canal+ va lancer une série sur l'e-sport, là.
Apollo 33.
Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, et ça va devenir un élément de notre culture tout à fait classique dans quelques années.
Ok.
Ouais, mais tu vas avoir des pop, des références, mais après, est-ce qu'il va y avoir vraiment... Oui, tu vas avoir une émission qui pop comme ça, un peu comme sur Canal il y a 10-15 ans, avec la nénette là en 3D qui parlait du numérique. Chloé, ouais. Je crois qu'il s'appelait Chloé. Oui.
Voilà. Gros sein et tout.
Mais c'est exactement. On en revient à ça. Mais.
Ok, on peut dire qu'on attend avec impatience la rentrée de la télé pour voir ce que nous proposent les chaînes classiques à propos de l'e-sport. Et on enchaîne sur la chronique suivante, la dernière chronique, celle de Curtis.
Chronique numéro 4.
Chronique numéro 4. La réalité augmentée, c'est bien, la réalité soustraite, c'est mieux.
Quelques mois avant les primaires de droite, je voudrais dédicacer cette chronique à la France qui se lève tôt. Oui, à cette France qui côtoie le monde du petit matin. Celui des 5 heures du mat. Oui, ce monde du petit matin, ce monde de tranquillité où la rue nous appartient, où les touristes ne nous encombrent pas encore la chaussée, où le trafic automobile ne nous encombre pas encore les oreilles, où les enseignes des commerçants ne sont pas encore illuminées. Eh bien, ce monde de tranquillité matinale, je vous propose de le translater à Rome, en plein mois d'août, en plein centre historique, devant la Plaza del Macaroni, à 15h.
L'après-midi. Il fait chaud, il fait beau, et vous promenez tranquillement, presque tout seul. Aucune voiture ne s'est garée à l'arrache devant la façade des bâtiments historiques. Le chant des oiseaux n'est pas couvert par le frombissement des Alfa Romeo ou des Fiat Panda. On se détend, on visite à la cool, tout seul, sans cette masse habituelle de touristes. Alors comment atteindre un tel confort touristique? Il vous faut patienter 20 ans, lorsque l'on portera tous des lentilles de réalité augmentée de Microsoft. Car dans 20 ans, nous serons témoins de l'usage au quotidien de la réalité augmentée, mais surtout de la réalité soustraite. Alors la réalité augmentée, vous connaissez. On vous rajoute une couche informationnelle en superposition de la réalité. Par exemple, toujours je me balade à Rome, et un peu comme je disais tout à l'heure lors de la FAQ, votre appli de réalité augmentée TripAdvisor, par exemple, surimprime sur votre champ de vision la note des pizzerias dont vous regardez la vitrine. Mais trop d'informations, ça fatigue. Eh bien, Eh bien, avec la réalité soustraite, je vous propose justement d'enlever les éléments de réalité IRL grâce à vos lentilles de contact, Microsoft. Cela a l'intérêt, en fait, d'effacer tous les éléments gênants dans notre entourage. Par exemple, les autres touristes, justement, les voitures, les pubs, etc., etc. En gros, on va éliminer tout ce qui vous gêne. Et ça vous permettra d'atteindre le confort touristique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire visiter Rome à 15h l'après-midi en plein mois d'août, comme si vous étiez le matin à 5h du matin. Alors, l'algorithme de réalité soustraite les gommera, et en fait, gommera tous ces éléments gênants, et à leur place, vous auriez en fait l'arrière-plan, donc comme s'il n'existait pas. Et tout ça donc par des formules, par des algorithmes informatiques. Donc on peut en fait déjà avoir une illustration de la réalité soustraite avec les écouteurs de la marque dont je n'arrive pas à prononcer le nom, alors je ne sais pas si c'est Bose ou Bose ou Bose.
Bose.
Qui couvre le bruit ambiant par la génération d'une fréquence inverse à ce bruit, donc ça fait un bruit blanc, ça l'annule. Et donc vous ne recevez que le son qui est émis par l'écouteur. Dans la littérature SF, on trouve aussi une idée assez proche avec le roman de Lem, avec le roman Le Congrès de Futurologie, où des substances en fait hallucinogènes couvrent les effets de la surpopulation. Donc vous ne voyez pas tous vos compères autour de vous, mais seulement qu'une partie. Alors on peut déjà même imaginer le modèle économique de ces applications de réalité soustraite. Donc en fait, le même que Catblock, c'est-à-dire que la constitution de listes blanches d'annonceurs, par exemple JCDecaux avec ses pubs sur les arrêts de bus, il serait obligé de payer pour entrer dans cette liste blanche et pour que vous puissiez en fait voir cette affiche. On peut même aller plus loin. En fait, est-ce que vous vous rappelez les lignes, je ne sais pas si ça existe encore, les lignes rouges du téléphone? Vous n'apparaissez pas, lorsque vous étiez sur la ligne rouge de l'annuaire, en fait, vous n'apparaissiez pas, ben justement, dans l'annuaire. Non, quand vous étiez sur la ligne rouge, vous n'apparaissez pas dans l'annuaire, c'est ça. Et en fait, dans 30 ans, lorsque tout le monde, justement, utilisera des systèmes de lentilles, des systèmes de réalité augmentée, on peut imaginer un service payant qui vous permettra de vous soustraire de la vue des autres et de devenir complètement invisible. Et donc, pour finir cette chronique, par un acronyme, une petite citation en anglais, « More is cool, less is better ».
Ok. Merci. Pas mal,
oui,
pas mal.
Au final, ce sera un espèce de adblock général intégré dans l'œil qu'on aura.
Ouais, voilà. Et en plus de supprimer donc les publicités, il pourra supprimer aussi, par exemple, les voitures, les... Et même, je pense qu'on peut aller plus loin et, par exemple, supprimer... moi, je supprime tous les hommes parmi les passants dans la rue, je garde que les femmes.
C'est une sorte de génocide virtuel.
De génocide... Ouais, voilà.
En fait, grâce à la réalité augmentée, on pourra tous être un Hitler en puissance. Et ça, c'est pas mal. Je pense que
mais
c'est...
Parce que moi, je crois à la supériorité contre les lièvres, les grands lièvres, des tortues, surtout quand elles sont un peu ninja.
Donc là, on atteint le point.
Godwin, merci pour ce point. Godwin, dans la fac.
Voilà, ça c'est fait.
Il était suggéré.
On l'avait pas fait durant la première émission. Maintenant, c'est fait.
Non mais on l'a eu. Juste, je voudrais dire, en fait, c'est là où on arrive vraiment au point où la réalité augmentée dévoile son vrai visage. Parce que en fait, même la réalité virtuelle. En fait, ce que cherchent à faire les gens qui créent tout ça, c'est avoir la mainmise sur le réel. On a la mainmise surtout sur le biologique, avec la chirurgie, la nanotechnologie. On a la mainmise sur l'information avec Internet. On a la mainmise sur le divertissement avec le jeu vidéo, le cinéma. Mais on n'a jamais pu modifier la réalité, la scénariser, l'améliorer, l'amoindrir. Et ben, en fait, la réalité augmentée, elle est là pour ça, en fait. Elle est là pour donner à l'homme le pouvoir suprême, être un dieu sur Terre, pouvoir décider de voir des gens, pas les voir, pouvoir décider d'avoir des informations avant les autres, sur des monuments, des lieux, etc. En fait, là, ça va trop loin, moi, je pense. Mais
t'es en train de nous faire le pitch de Magic Leap, en fait, là. la Magic Leap, la compagnie qui s'est lancée pour concurrencer l'HoloLens de Microsoft avant même qu'il soit lancé.
Magic Leap, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est ça, en fait.
Ouais, pas du tout, ouais.
C'est ça, ils promettent une expérience de... Ils n'appellent pas ça de réalité augmentée, mais ils apparentent ça à de la magie. Enfin, leur objectif, c'est ça, c'est que ça apparaisse magique. Ouais.
Curtis parlait dans le fil privé de « tu peux enlever les voitures quand tu veux prendre une photo d'un monument ».
Quand tu le regardes.
Quand tu le regardes.
Quand tu le regardes, mais éventuellement, si tu peux éventuellement soustraire des objets à la réalité, tu peux éventuellement prendre des photos. Enfin, j'ai eu sur la tête des Google Glass. C'est incroyable la qualité, et c'est pas tant la qualité, mais c'est le fait d'avoir l'appareil photo tellement près des yeux que t'as l'impression de prendre en photo ce que tu vois, contrairement à quand tu prends une photo avec un appareil photo.
Oui, t'as toujours le capteur prend toujours plus large, plus grand que ce que tu vois.
Exactement. Donc là,
t'as l'impression de prendre la photo de plus loin que ce que t'as vu.
T'as l'impression de regarder et de prendre en photo ce que tu vois vraiment, et c'est extraordinaire, et la qualité était juste géniale. Après, les Google Glass, c'est de la merde. Ça, c'est une autre question, mais voilà. L'idée intéressante de Curtis, au final, c'est, au lieu d'ajouter des choses à la réalité, c'est d'en soustraire. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore fait. Mais Quand on voit ce que Photoshop CS6 est capable de faire, c'est-à-dire tu as une photo de plage avec un poteau au milieu, tu détours le poteau, tu vires le poteau et Photoshop te recrée en fait tout l'espace vide de façon naturelle. Ça, il te recrée la plage, il te recrée le ciel. Je pense que on finira par avoir des lunettes qui soient capables de recréer, d'effacer les éléments gênants.
Oui, c'est ça. On en arriverait un petit peu à ce qui se passe dans un épisode de Black Mirror où les gens ont des lentilles vidéo dans les yeux et peuvent bloquer les gens avec qui ils veulent plus parler. Alors, ça fait pas comme dans la chronique de Curtis, les gens disparaissent pas, mais ils sont juste remplacés par leur silhouette en grisé. Et quand ils parlent ou quand ils font du bruit, ben c'est un son très étouffé.
Alors, si vous voulez aider Emmerich à sortir de Black Mirror, appelez le 06 61 21.
J'y suis pour rien s'ils ont tout anticipé.
S'il vous plaît, aidez-le.
Le tweet post qui vous a fait rire, pleurer ou rager.
Et enfin, on termine avec la petite rubrique de fin, le tweet post like qui vous a fait rire, pleurer ou rager. On commence avec Sous-X.
T'es
de quoi
gentil.
Veux-tu nous parler, Sous-X?
On va vite faire parler de Pokémon Go et de ce petit gamin qui a posté une vidéo dont les parents doivent être un peu comme les parents de Jordi, qui ont poussé leur enfant à faire plein de vidéos chansons sur tout un tas de jeux vidéo. Le gamin chante I play Pokémon Go. Donc je vais vous mettre tout de suite le son. Pokémon Go, every day I play Pokémon Go. When I wake up, I'm grabbing my phone. I wanna get more. I wanna play Pokémon.
Oui, donc j'avais vu la vidéo du gamin, je savais pas qu'il faisait autant de... Enfin, que ses parents l'avaient poussé à faire ça, ou même qu'il en avait fait d'autres. Je pensais que c'était juste un truc unique. Et c'est... En tout cas, moi, ça m'a bien mis le malaise. On sent que le gamin est super heureux de tourner dans cette vidéo.
Ça fait peur. Quand tu regardes, parce qu'il a fait une vidéo sur LOL, il a fait une vidéo sur Dota, il a fait une vidéo sur CS. Enfin, c'est... Oui. c'est Tu sens que le gamin, il fait pas ça de son propre chef.
Moi, je regarde la vidéo, là, 9 millions de vues en une semaine.
Ça fait le buzz.
Non, en un mois, pas en une semaine, en un mois, quand même. C'est, bon, 9 millions en un mois, c'est quand même pas mal. 209 000 abonnés pour la chaîne, donc ça veut dire que c'est même aller au-delà des abonnés de la chaîne. C'est vraiment viral, bon, c'est bien. Mais comme tu dis...
Apollo 33.
Apollo 33. Mais comme tu dis, Sous-X... J'ai vraiment l'impression que ce mec-là, enfin ce petit gamin, c'est pas un mec, c'est un petit enfant, quoi. c'est un outil, quoi. C'est un outil de gagner de l'argent, quoi. Donc, je suis très, très gêné par ce... par ça. Mais après, la chanson en elle-même, je trouve qu'elle a un vrai potentiel. Et j'imagine bien gagner, pourquoi pas, un Grammy Award de la meilleure chanson de l'année. Je pense que ce petit garçon pourrait vraiment être repéré par des grands noms de la musique et faire carrière.
Un peu comme It's Friday.
Ouais, voilà. Attendez-vous à avoir un featuring entre Snoop Dogg et ce petit garçon Pokémon Go Singer.
J'imagine bien Snoop Lion et le gamin nous faire un petit remix rap-reggae.
Tu sais qu'il a l'air un peu foncedé en plus, le gamin. Donc,
Il a l'air tellement famous.
Oh my god.
Bien. Ben, on peut enchaîner. Curtis, de quoi voulais-tu nous parler ?
Alors, moi j'ai liké, quoi, j'ai mis un petit cœur sous un tweet du pure player de droite, Atlantico.fr.
Oh là là.
Et le tweet qui a été liké par deux personnes, dont moi, et c'était surtout n'utilisez pas l'huile vaginale conseillée par Chloé Kardashian.
D'accord, donc la dernière fois on avait des seins avec Coca-Cola, et là.
Non, mais en fait, j'étais à la Cogip, et c'était un titre d'article assez énigmatique, donc j'ai liké en fait pour le lire plus tard. Donc c'est une utilisation détournée du like de Twitter.
Donc voilà. Tu nous mettras un lien, bien sûr.
Je mettrai un lien, ouais. Mais j'ai toujours pas lu l'article et je trouve ça rigolo justement de pas. Je trouve ça rigolo de ne pas le lire, de le continuer comme ça.
Lâche.
Donc moi, c'est un truc que, en fait, j'avais totalement autre chose à vous proposer au départ. Et puis là, je suis tombé sur un tweet de Poufy. Alors Poufy, c'est le mec qui fait les vidéos pour la chaîne Gameblog et qui peut tweet à peu près tout et n'importe quoi toute la journée. Et a fait un tweet pas mal, bien senti, avec 409 retweets et 216 j'aime, il y a 3 heures à peu près, sur Nicolas Sarkozy qui vient d'annoncer qu'il va reprendre, qu'il va se présenter pour les élections. Et c'est marrant parce qu'il...
T'as des sources.
Ah ben c'est
sûr,
apparemment le tweet, enfin Sarkozy est entêté et tout le monde parle du fait qu'il s'est présenté. Or, en 2012, Sarkozy disait cela. Alors on mettra la vidéo du coup. Et dans cette vidéo, donc Nicolas Sarkozy exprime le fait qu'il va arrêter la politique si jamais il perd les élections. Il dit ça en 2012. Il a perdu les élections contre François Hollande, déjà c'est une performance. Et qu'est-ce qu'il fait, le Sarko ? Il se représente.
Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ?
Oui.
Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique.
Vous pouvez me poser la question une troisième
oui,
fois.
Oui, non, mais je
vous le dis, oui.
Oui. K.O.
Mais oui, je ferai autre chose.
Donc,
Sarko... Il s'est quand même bien retiré quand il a perdu.
Oui, il s'est retiré. Il a dit qu'il arrêtait la politique. Si tu regardes la vidéo, je vous mets le.
Arrêtez les allusions sexe, s'il vous plaît.
C'était pas une allusion. Hein. Il a vraiment arrêté. Il a arrêté la politique. Il est parti.
Il y avait vraiment une grosse élection.
Il est.
Et cette élection a fait bon. Voilà, il a perdu. Il a perdu l'élection. Il n'a pas réussi à la faire durer. Cette.
Et du coup, bah, il s'est retiré. Il est parti faire couper voilà. Sa barbe.
Il a raté son élection, voilà.
Faire des conférences.
Et voilà. Et
là, il revient et il a changé.
Voilà, il a eu droit à une inflation de Rachid Dati, et puis voilà. Non, mais en tout cas, voilà, ce Nicolas Sarkozy qui tient toujours ses promesses, hein, encore une fois, on voit que ce. Et ce qui est bien encore, c'est qu'Internet permet de ressortir les vieux dossiers.
Oui, mais c'est... regarde, Jospin avait dit la même chose.
Qui ça ?
Jospin, en 2007.
Je ne connais pas cette personne.
Oui, trop bien, c'est vrai.
Mais non, je déconne, bien sûr, je connais Lionel Jospin. Mais je veux dire, il m'a déçu, ce thème-là.
Je pensais qu'il votait à droite, maintenant.
Moi je vote extrêmement, je vote Front National.
Bon, tout ça sera coupé.
Front National, parce que je suis de gauche, donc c'est logique.
Non, mais en fait, Jospin, il n'est jamais revenu. C'était ça la blague.
Mais ce qui était parti à un moment donné, c'est ça le truc, c'est ça qu'on. On sait pas s'il est parti, s'il est revenu. On sait pas s'il était vraiment là. Hein. Il y a des gens qui disent que Jospin, c'était en fait un personnage de bande dessinée.
Je vais cut tout ça, les mecs. Hein. On ne parle pas de politique dans cette émission.
Ouais. D'accord, ok, pardon, désolé. Donc en tout cas, Nicolas Sarkozy qui ne tient pas ses promesses encore une fois, et c'est assez drôle.
Ok. Et moi, je voulais vous parler d'un post sur Reddit d'un jeune gamer un peu désillusionné par No Man's Sky qui ne délivre pas les promesses de Sean Murray. Et au final, en fait, j'étais un peu embêté jusqu'à aujourd'hui parce que devant la pression du nombre de gens qui envoyaient de la haine envers Hello Games, le développeur de No Man's Sky, et la quantité de gens aussi qui envoyaient de l'amour à ce jeune garçon, enfin je sais même pas quel âge il a, mais à cette personne qui avait posé ce post listant un peu tout ce qui avait été promis et qui n'avait pas été mis dans No Man's Sky, il a effacé son compte et donc je n'avais rien à vous donner. Et au final, il y a des gens qui ont récupéré le post en question et qui ont fait un site sur lequel on retrouve donc le post avec l'intégralité des promesses de No Man's Sky qui n'ont pas été tenues. Au final, c'est sûr que le jeu livré n'est pas le jeu qui a été promis, mais au final, quel jeu livré est exactement le jeu qui a été promis ?
Tetris.
Tous ceux qui ont joué à un jeu Ubisoft savent de quoi je parle.
Rayman Origins, c'est Rayman Legends, c'est pas
moche,
mal.
Oui, je parle des triple A de Ubisoft, pas de leur petit projet indé.
Jeune. Allez, j'arrête là.
Assassin's Creed, oh mon dieu.
Oh, le premier était extraordinaire. Non.
Moi j'adore Assassin's Creed,
ils ont jamais survendu le premier Assassin's Creed, c'est les autres qui ont été tous un peu survendus.
Assassin's Creed 2,
le 3, le 4.
La motion capture de Assassin's Creed 1, quand tu vois les trailers et que tu vois le mec grimper sur un mur, c'était du jamais vu, quand même. Hein.
Mais en plus, moi, j'aime cette saga. J'aime beaucoup cette saga, je tiens à le dire. Mais les gars ne délivrent pas. Ils ne délivrent jamais. C'est ça qui est le problème.
Il y a beaucoup, on les a beaucoup trashés à cause du downgrade de leur jeu. Par exemple, les trailers de présentation de The Division ou précédemment. De
Watch Dogs.
Le truc de Watch Dogs.
Watch Dogs 2, ça sent le downgrade à 100%.
Mais au final, c'est surtout des downgrades graphiques. Alors que là, No Man's Sky, c'est beaucoup de downgrades au niveau gameplay. Ils ont énormément simplifié les choses. J'aime beaucoup le jeu, je vais pas vous mentir, j'ai passé plusieurs heures dessus. Et au final, il est pas déplaisant, enfin en tout cas pour moi. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête, c'est pas ce qu'ils nous ont vendu.
C'est un petit peu du WoW au final, niveau graphique.
Oui, c'est...
C'est du... Comment on dit en animation? C'est du...
C'est
surligné en noir. C'est surligné en noir.
Cel shading?
Ouais, exactement. Enfin, on n'est pas... on est dans du cel shading, mais pas surligné en noir.
Oui, cel shading réaliste. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu où on ne fait que passer du temps, en fait. Quand tu dis on a passé beaucoup d'heures à ce jeu... J'ai l'impression qu'on fait que ça, passer des heures dans
un jeu contemplatif, on va dire. C'est un petit jeu.
Mais j'ai l'impression que les indés, là, maintenant, enfin, il y a une recette indé, tu vois. C'est soit le jeu en pixel art, soit le jeu contemplatif. À part, tu vois, les jeux comme Shovel Knight, où il y a un vrai challenge et tout, machin. J'ai beaucoup l'impression aujourd'hui que les jeux indés, ils ont une petite recette tranquille pour pouvoir, bien passer pendant le 3 et faire une petite respiration entre deux triple A. Mais ils ont pas plus d'ambition.
De toute façon, moi, les indés, j'ai toujours dit. Les indés, c'est juste des mecs trop mauvais pour être sur des majors.
Waouh.
Ok, on va s'arrêter là, vu qu'on est en train de saouler Curtis. Et cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, un dernier tour de table, un petit mot flash.
Écoutez, merci de nous écouter. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous, les mecs. Et puis, on espère qu'on a pu vous faire patienter jusqu'à Studio 404, le retour. Et puis peut-être qu'on reviendra, nous aussi, pour quelque chose de sympa pour la suite. On verra. Et voilà, je laisse la parole au suivant, alors.
Curtis.
Eh bien, moi, je vous dis à bientôt sur le forum. Le 3 septembre, je vous donne tous rendez-vous. Car je serai enfin unban. Voilà, donc à bientôt.
À bientôt, Curtis. Sous X.
Très content... d'avoir participé à ce remake de 404 et on espère qu'il y aura d'autres choses, de nouvelles choses
Et je vous donne rendez-vous sur le forum avec éventuellement plein d'autres aventures. Merci beaucoup.
Super. Ouais,
super, merci à tous. J'espère que ces deux petites émissions vous auront plu. N'hésitez pas à commenter sur la page qu'on ouvrira sur le forum.
Et merci, merci à moi-même qui suis en tant qu'initiateur du...
Merci.
Et vivement le 3 septembre.
Vivement le 3 septembre.
Et franchement, bon, on en parle voilà, vite fait, mais je fais un vrai appel à 404. Vous pouvez proposer des podcasts avec qualité. Ben, écoutez, on est là. On est prêt. On est dans le game. Notre game, cousin.
Merci à tous. Bye bye.
Allez, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao et bis à l'œil. The facts found by the minutes, which may constitute a criminal offense.
Ok.
C'est qui dit ça? Ciao et bis à l'œil. Bernard Lenoir.
Okay.
Bernard Lenoir. Non,
je pourrais citer Serge Lacour, grand philosophe de la télé réunionnaise à une époque.
Ouais.
Disait allez à l'Arvoyure et Buenas Bourras.
Bah dis donc. Heureusement qu'on a échappé à ça.
Pas de petits mots pour fibre cette fois, Flash.
J'ai voulu vraiment, mais bon, allez, j'en fais un petit.
Vas-y.
Fibre tigre, je sais que tu me vois quand je regarde tes snaps. Je sais que tu me vois quand je suis en bas de chez toi. Je sais que tu me vois quand je te suis la nuit. Mais s'il te plaît, retourne-toi et regarde-moi.
Oh.
Ou je te tuerai.
C'était tellement mignon jusqu'à la fin. En tout cas, on peut remercier l'équipe de qualité qui organise une grande fête pour le retour de Curtis sur le forum. Merci à vous.
Merci.
Magnifique.
Ouais, je te jure.
Allez.
Non mais honnêtement, je trouve qu'ils sont quand même super sympas les gens de qualité parce que. J'étais persuadé que ça allait, on n'allait même pas pouvoir pour sortir le numéro 1, tu vois.
Oh. Ils sont pas. C'est pas des petits Hitler en puissance, hein.
Oh, des fois.
Godwin numéro 2. Putain.
Je pense que les choses se remettront en ordre.
Quoi?
Quoi?
Godwin numéro 2, là.
Mais non, mais on peut plus dire Hitler tranquillement, quoi. On peut plus parler d'Hitler.
Suzy, une fois que le point de Godwin est atteint, c'est.
D'accord, après c'est tout.
Parce que Goebbels, okay. Finalement, quand il a lancé le podcast, qu'est-ce qu'il voulait?
Si tu veux, j'aurais pu parler de des petits Kim Jong-un, mais.
Voilà, le point Corée du Nord, tout le monde s'en fout. Ouais.
Voilà. En fait, on est tous les quatre, on a fait la première émission, on a fait la deuxième, tous les quatre aussi.
Ouais.
Mais c'est ouvert, quoi. S'il y a d'autres gens qui veulent venir, veulent participer. À la base, c'était vraiment l'objectif, c'était de faire une émission de Kalitos pour les Kalitos. Donc voilà, c'est ouvert aux autres Kalitos.
Ça veut dire Flash Thompson Bartois, c'est ça que ça veut dire, en fait.
Argument et sans fondement. Voilà ce que je voulais dire.